voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Jérôme Sandelard se rencontre Maxime Le Forestier. Ce soir, des débuts en solo à l'envol.
Bonsoir Maxime Le Forestier.
Bonsoir.
Et merci une nouvelle fois de nous accueillir toute cette semaine chez vous dans la campagne vendômoise, à environ trois quarts d'heure en TGV de Paris. Hier, nous évoquions vos premiers pas sur scène en compagnie de votre sœur Catherine, sous le nom de Kat et Maxime, les rencontres déterminantes avec Georges Moustaki, qui vous prend sous son aile, puis avec Jacques Bedos, directeur artistique chez Polydor, qui vous présente à Serge Reggiani, à qui vous confiez l'une de vos chansons, Ballade pour un traître. Nous sommes alors en 69 et pour vous, c'est le premier signe de reconnaissance du métier. Et puis, vos premiers pas en solo lors du festival de Spa en 71. Et nous évoquions enfin le départ pour San Francisco qui inspira la chanson-titre. Ce soir, je souhaiterais que l'on replonge ensemble dans ces années 70, et plus exactement l'année 72. Vous avez alors 23 ans, et c'est le moment où paraît votre premier album 33 tours. Il ne porte pas vraiment de nom, mais on le surnomme « Mon frère » ou « Le disque à la rose ». Parce que sur la pochette du disque, vous posez en chemise et veste de jean, cheveux longs et barbe foisonnante, avec une rose au-dessus de la tête. Est-ce que vous vous souvenez, Maxime Le Forestier, précisément des circonstances dans lesquelles vous avez conçu ce premier album ?
Conçu, c'est un mot peut-être un peu excessif. Moi, j'écrivais des chansons donc depuis l'âge de 18 ans. J'en avais écrit un certain nombre. J'avais un rendez-vous avec Jacques Bedos tous les 15 jours.
Votre directeur artistique ?
Oui. Mais pendant un an et demi, hein. Année 71, et je lui chantais à chaque fois deux chansons nouvelles. Il me disait, putain, elles sont bien, hein. Mais j'ai pas le tube. Alors bon, je repartais chez moi, je réécrivais deux chansons 15 jours après, et ça a duré, et à un moment j'en ai eu marre, et j'ai dit à Jacques, écoute, il faut que j'enregistre maintenant, ça peut pas. Et il dit, on va faire un single d'abord. Donc on a fait un premier single avec Mon frère et Éducation sentimentale, qui n'a pas marché du tout, mais rien, même pas la famille. Quoi.
Surprenant avec le recul. Hein.
Oui. Quelques mois après, on a fait un autre single avec San Francisco, et ça sert à quoi ? À rien. Et là, il y a eu une réunion des mecs, des représentants, des types qui vont vendre dans les magasins et qui ont dit à Jacques Kerner, le patron de Polydor, lui, on n'arrivera pas à le vendre en single, faites-lui un album et là, on arrivera peut-être à le vendre. Donc Kerner, on avait déjà 4 titres d'enregistrés, il en fallait 11, je crois, 11 ou 12 dans l'album, et il a donné à Jacques Bedos un budget pour 2 chansons supplémentaires. Et là, alors, on a fait des petites entourloupes. Il y a 2 chansons à la guitare, La Rouille et San Francisco. Et puis, Jacques Bedos a fait passer sur les budgets de Moustaki et de Reggiani quelques séances d'orchestre, ce qui nous a permis de boucler l'album.
Vous êtes engouffré comme ça dans les interstices.
Oui, je pense que si vous regardez dans l'historique des comptables de Polydor, il y a des chansons, vous ne trouverez pas de traces.
Des enregistrements.
De l'enregistrement.
J'aimerais qu'on revienne ensemble, Maxime Le Forestier, sur la genèse de quelques-unes de ces chansons donc, qui composent ce premier album. Prenons par exemple « Mon frère » ou « Parachutiste », chanson autobiographique, puisqu'on évoquait hier votre passage chez les paras. Vous avez brillé.
Oui.
Espèce de pamphlet antimilitariste.
C'était pas conçu comme ça au départ. Je me souviens, je l'ai écrite dans le métro, je l'ai pensée dans le métro entre Mairie de Saint-Ouen et Chambre des députés. Et je l'ai écrite en arrivant au ministère. Le premier papier sur lequel cette chanson a été écrite, c'était un papier de l'armée.
Donc de manière très fulgurante.
Oui, elle est arrivée comme ça. Et en fait, c'était un bout de chanson que je voulais envoyer à mes potes qui étaient restés là-bas. Il y a du vocabulaire qu'on employait avec là-bas. Et puis c'était surtout le portrait du sergent-chef Martin, qui nous a fait chier pendant 2 mois, qui dirigeait les classes. qui était un combattant exceptionnel. Hein. Il était capable de piéger n'importe quoi. Il était fils d'un militaire français, d'une mère vietnamienne, et il avait été dans les enfants de troupe. Enfin, il n'avait jamais eu le choix, quoi. Et c'est, je crois qu'on l'engage dans la police, c'est lui qui me l'a dit, parce que la veille de mon départ, je l'ai invité à boire une bière, quand même. C'est sa vie, hein, cette chanson.
Comment le public a réagi, Maxime Le Forestier, à la sortie de ce morceau parachutiste ? Parce qu'il y a eu des réactions assez vives, quand même.
Oui, dans les deux sens. Dans les deux sens. Il y a eu la réaction de John Baez quand je l'ai vu chanter. Elle m'a dit, mais celle-là, je vais la chanter. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu... mais ça, c'est arrivé plus tard. La première à l'enregistrer, c'était Catherine, sur le disque Au pays de ton corps. Elle avait mis Parachutiste. Et je me souviens que c'était pas sorti sous la marque Philips, qui était le bateau amiral du groupe, mais sous une marque une sous-marque du disque, et il y avait marqué les textes des chansons n'engagent que leurs auteurs sur la pochette. Je dois la voir encore ici. Mais c'est curieux, parce que les seules réactions violentes que j'ai eues, c'est les anciens combattants. Les militaires eux-mêmes... je me souviens d'une conversation que j'ai eue à Djibouti il y a une vingtaine d'années avec un capitaine de para. On parlait de cette chanson et il dit, mais nous, on vous en a jamais voulu. On en a voulu aux connards qui vous avaient mis là-dedans, parce que nous, c'était notre rêve d'aller au 13e dragon parachutiste. Ceux qui voulaient faire vraiment de être vraiment des combattants. Et mettre un mec qui était contre là-dedans, c'est mettre un analphabète à Polytechnique, quoi. Ça sert à rien. Donc, et alors, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que cet officier orienteur qui m'a envoyé là, en fait, il me voulait du bien. J'étais enfant de divorcé, j'habitais Saint-Ouen, j'avais pas le bac, j'avais pas de métier. Il a dû se dire, allez, je vais lui donner une chance.
Et est-ce que vous aviez un complexe par rapport justement au fait de ne pas avoir le bac ?
Ah, je l'ai toujours, oui. Oui, oui.
Vous l'avez surmonté ?
Oui, oui, quand même.
Parachutiste, c'était votre première chanson engagée, on pourrait dire, à ce moment-là ?
C'est une bonne question. Je crois bien, oui. Je crois bien, mais c'était, je ne considérais pas ça comme une chanson engagée. Pour moi, c'était un... comme San Francisco, je ne considérais pas comme un tube. C'était un signe que j'envoyais aux gens de la Maison Bleue. Parachutiste était un signe que j'envoyais à ceux que j'avais laissés adieuses.
Qu'est-ce qu'elle disait en substance, cette chanson ?
Elle raconte l'histoire d'un type qui n'a jamais eu le choix. Et qui se demande s'il ne va pas rentrer dans la police parce que maintenant, il n'y a plus de vraie guerre. Quoi. Mais c'est remis dans le contexte de ces années-là, le service militaire, avec tout ce que ça avait d'injuste et de... On dit c'est un grand brassement de population, c'est une connerie, ça. Déjà, ceux qui font des études, ils sont sur six terres. Étant sur six terres, ils sont officiers.
Vous évoquiez John Baez, Maxime Le Forestier, oui. Donc, qui va s'emparer de cette chanson, qui va se l'approprier, on peut dire. Vous pouvez nous raconter ce moment où elle l'interprète à la fête de l'UMA ?
Oh oui, c'était étonnant. C'était étonnant, j'étais dans la fosse devant. Quoi. Alors ça, il y avait, je ne sais pas, 400 000 personnes. C'était monstrueux. Et puis d'entendre sa chanson par une voix pareille, c'est quand même... Chaque fois que j'ai chanté avec elle, j'avais les poils debout. Quoi. Et puis elle a une espèce de courtoisie quand elle chante. Là, je parle pas de parachutiste, je parle de quand elle chante en duo. Elle a une puissance vocale qui peut coucher n'importe qui. Hein. Et ben, elle fait attention. Elle chante pas plus fort que vous. C'est... elle est musicienne, elle est... Non, c'est une femme, c'est une grande dame.
Ensemble, vous avez interprété Don't Think Twice, It's Alright.
Oui, on a fait Don't Think Twice, on a fait Les choses les plus simples, une chanson de Gabriel Yacoub qui est très belle. On a fait Asa Branca, une chanson brésilienne de Luiz Gonzaga. On avait fait un bout de concert où on chantait une demi-heure ensemble. Et donc, j'avais dit, mais essayons de chanter dans toutes les langues. Donc, on a chanté en espagnol, en portugais. On n'a pas eu le temps de faire la chanson de Bulata Kudjava. En russe, c'est une belle langue. On n'a pas eu le temps de le faire.
Jeanne Bess, vous avez gardé des liens avec elle? Vous
l'aviez
quoi, découverte en 59, je sais plus, au festival de Newport, ou quelque chose comme ça, à cette occasion?
Oui, enfin c'était, mais je la connaissais pas, moi je l'ai connue en...
Sur disque?
J'ai connu sur disque d'abord, oui. Et puis je l'ai rencontrée en 71. Je l'ai pas connue encore.
Alors là, on est à peu près quoi, 13 mois avant de faire la première partie de Brassens à Bobino? En octobre 72, c'est le moment où sort votre premier album. Et sur ce premier album, il y a également la chanson San Francisco, qu'on évoquait hier, qui raconte finalement votre séjour dans cette maison communautaire.
C'est un portrait de cette maison, oui. Et au-delà de la maison, un portrait de la ville.
Un état d'esprit, des personnages.
Donc un état d'esprit à une certaine époque. C'est curieux parce que j'ai l'impression que je me suis beaucoup ennuyé à San Francisco. En fait, je comprenais pas un mot de ce qu'ils racontaient, tous. Parce que non seulement ils parlaient anglais, mais ils parlaient leur anglais à eux, avec les codes qu'on a quand on a 25 ans. Et donc c'est peut-être ça qui fait que j'ai regardé, puis j'ai recraché après.
Et dans cette maison, il y avait d'ailleurs différents personnages que vous évoquiez dans la chanson. Mmh. Luc Alexandre, dont on a parlé, oui. Cet homosexuel flamboyant qui va comme ça traverser votre vie jusqu'à sa mort dans les années 90.
93,
la mort du sida,
oui.
93.
Oui.
Mais il y a d'autres personnages. Je pense à Sylvia, qui peut être une espèce de condensé de... Je sais pas, c'est de psylo, peut-être des champignons.
De psilocybine et de Sylvia, oui. Mais
il y a...
Sylvia, c'est dingue.
Il y a Phil,
dingue.
À la Kena. Il y a...
Phil, oui, qui est toujours vivant.
Parlez-moi un petit peu de la vie qui régnait dans cette maison, de l'atmosphère. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une chanson?
Alors, il y avait dans San Francisco, à cette époque-là, plein de communautés. Parce que beaucoup de jeunes du Middle West avaient quitté leur baraque et étaient partis vers l'Ouest. Donc, il y avait vraiment des dizaines de milliers de gens auxquels vous pouvez ajouter les déserteurs de la guerre du Vietnam, et un certain nombre d'associaux.
Des hippies, des homos.
Des hippies, des homos, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'homos. Et qui se sont retrouvés à San Francisco parce que c'est une ville à taille humaine. Il y a des maisons. Et en bon ricains qui sont, au lieu de se dire on va dormir dans la rue, ils se sont dit on va se regrouper, puis on va louer une baraque, et donc il y a plein de communautés. Alors la plupart étaient des communautés extrêmement sérieuses. Il y avait toujours des connotations religieuses, mystiques, etc. À la Maison Bleue, non. C'était des laïcs. Et ils étaient absolument... Bon, il y avait beaucoup d'homos, mais il y avait aussi un couple fidèle, hétéro, Sylvia et son mec, ils sont toujours ensemble, hein, et ils ont fait une fille. Il y avait toutes sortes de gens. Ils avaient créé un système de collecte de nourriture pour nourrir toutes les autres communautés.
Donc on mangeait bio, j'imagine?
Oh là là, on mangeait bio et on mangeait végétarien. Ouais, ça, c'est le problème. Ouais. Et voilà. Et alors, évidemment, ils sortaient. Il y avait plein d'événements qui se passaient dans le quartier. Je me souviens d'avoir vu Allen Ginsberg habillé en femme avec une perruque bleue.
Un des chants de la Beat Generation.
Qui jouait du violoncelle en déclamant des poèmes. J'ai vu des trucs. Mais comme on dit, ceux qui vous disent, je me souviens de Woodstock, sont des menteurs. Nous étions tous trop stone pour nous souvenir de quoi que ce soit.
Donc c'est ça.
Il y avait ça aussi, bien sûr.
Ouais. On consommait pas que du lait et des cigarettes en chocolat, quoi.
Non, mais on fumait une herbe qu'on cultivait nous-mêmes. Et on ne prenait pas de drogue synthétique, il n'y avait pas de LSD. Il y avait, si on voulait un hallucinogène, c'était un champignon. C'était... Et puis, il y en avait toujours deux qui ne prenaient rien pour secourir les autres au cas où il y aurait un problème. Il y avait encore l'aspect, l'alibi expérimental, si vous voulez. Mais il faut préciser que cette vie très libre est également très dangereuse. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui ont survécu. Entre le sida et les overdoses, il y a eu quand même beaucoup de morts.
Est-ce que cette aventure, Maxime Le Forestier, vous a profondément imprégné? De quelle manière?
Ça m'a imprégné, moi, parce que c'est vrai que je sortais de l'armée, de la France gaulliste. J'étais, à part mon voyage en Allemagne, je ne savais rien.
Vous découvriez un vent de liberté?
Donc, je découvrais, mais tout. Et puis c'est vrai aussi que la vie des jeunes dans le quartier de Castro à San Francisco, ça n'avait rien à voir avec la vie des jeunes à Paris. C'était une autre liberté, une autre éducation, une autre façon de voir les choses.
Lorsque votre premier album va sortir, avec cette chanson, San Francisco, vous allez être perçu par la jeunesse française comme une espèce de figure de proue, comme ça, de ce mouvement hippie. Alors évidemment, il n'est pas comparable à celui qu'ont connu les Américains, mais est-ce que vous avez compris ce qui se passait? Est-ce que vous avez assumé cette image tout d'un coup que vous projetiez sur cette jeunesse française?
Ah oui, puis c'était extrêmement agréable, parce que c'était des... D'abord, c'était des beaux principes. Paix et liberté, c'est... c'est agréable à défendre. Et puis, il y a eu tout le côté antimilitariste aussi. Parachutiste m'a évidemment branché avec des tas de mouvements, d'objecteurs de conscience, d'insoumis. C'est là que j'ai vu la réalité de l'armée française. Par la suite, Jean-Jacques de Félis, Henri Leclerc, qui est des avocats qui plaidaient devant les tribunaux militaires, m'ont demandé de venir témoigner pour attirer l'attention des médias sur les tribunaux militaires, qui étaient quand même des choses assez bizarres. La seule chose dans laquelle j'ai un peu milité, c'est ça, quoi.
Comment vous abordiez l'écriture à vos débuts, donc à l'époque de ce premier album? Vous parliez il y a quelques instants de parachutiste que vous aviez écrite l'espace de quelques stations de métro, mais j'imagine que ça se passait pas comme ça pour toutes les chansons. Est-ce que...
Non, mais il y a plein de manières. C'est une chanson, on peut la prendre par n'importe quel bout. Hein. Ça peut commencer par les paroles, ça peut commencer par la musique, ça peut commencer par une pulsion, par une ligne de basse, par un phrasé, par n'importe quoi. J'ai avec Kernoa, on travaillait dans une édition qui était au 44 rue de Miroménil. Et on arrivait le matin et on se disait, on va pas manger tant qu'on n'a pas écrit une chanson. Alors, évidemment, il y a du déchet. Il y a des trucs qui sont pas chantables, mais il y a ça aussi. C'est ce qu'on faisait avec Boris Bergman aussi pendant une époque. Une chanson par jour. Ça, c'est le côté, faut que je bosse. Et puis, il y a quelquefois des miracles, des chansons qui vous arrivent d'un coup. On sait pas d'où. C'est... très particulier.
Est-ce que, pour vous, une chanson doit occuper une fonction? Je vous provoque un peu volontairement, mais est-ce que vous dites, tiens, je vais essayer de saisir l'humeur du moment, je vais écrire une chanson pour, je sais pas quoi, pour faire pleurer, pour faire réfléchir, pour...
Non, moi, je sais pas à l'avance ce que va devenir une chanson quand je la commence. Mais, l'idée qu'une chanson ait une fonction, oui. Si vous êtes... Dans une fête de mariage qu'il est 3h du matin et qu'on vous demande de chanter, vaut mieux chanter les sardines de Patrick Sébastien qu'avec le temps. Si vous devez rompre avec la femme que vous aimez, vaut mieux chanter avec le temps que les sardines. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qui remplit sa fonction. Si sa fonction, c'est de faire marrer les gens en faisant la chenille, eh ben, si elle y arrive, elle est bonne. Alors, il y a plein de fonctions. Une belle anecdote qui m'est arrivée au Père Lachaise. Il y avait une crémation. Une crémation, c'est très long. Hein. Et alors, pendant la crémation, qu'est-ce qu'on fait? On passe des chansons. Chansons qu'aimait le défunt. Alors, après la crémation, je vais voir un mec du coin, là, un croque-mort. Je lui dis, mais c'est une habitude chez vous de passer des chansons, ou c'est juste parce qu'on a brûlé mon pote? Il dit, non, il n'y a pas de rite funéraire pour les crémations. Donc, on passe les chansons que le défunt aimait. D'ailleurs, Billes de verre marche très bien.
Une de vos chansons, je précise.
Il y a des chansons à enterrer, donc il y a des... Souvenez-vous de la marine, les chansons à hisser, les chansons à ramer, les chansons à... Et puis les chansons de Gaillard d'avant, qui sont les chansons que les mecs se chantaient le soir en reprisant les voiles, qui, elles, racontent des histoires, des batailles, des choses comme ça. Mais les fonctions différentes de la chanson... C'est passionnant. Enfin, ça va le devenir de moins en moins, puisque maintenant les chansons sont principalement destinées à faire vendre. Donc, c'est plus du tout pareil, quoi.
Comment vous allez vivre ce succès qui est extrêmement soudain, Maxime Le Forestier, où tout d'un coup vous retrouvez à jouer devant des milliers de personnes, d'abord en première partie de Brassens, autre grand frère qui va vous ouvrir la voie. Il y a des affiches dans la rue, des 4x3, comme ça, à chacun de vos concerts. Comment vous vivez ce succès?
Je m'en suis aperçu 3 ans plus tard. Au début, j'étais vraiment heureux d'avoir du boulot, déjà. Un jeune chanteur, si son calendrier est tout noir, il est content. donc pour moi, c'était ça. C'est vers 75 que ça a commencé à me... que j'ai reçu le traumatisme du succès.
T'es arrivé au troisième album, Saltimbanque.
C'est ça, oui. Là, c'est la première fois que je voyais ma tronche en 4x3 sur les murs. Je faisais le palais des congrès. Et il a fallu que je break, quoi. Mais j'ai breaké d'une façon marrante. J'avais acheté dans le village d'Anne-Sylvestre un corbillard hippomobile, 500 francs. Et j'avais un copain à Lyon qui avait 2 juments dont il ne savait que faire pendant l'été parce qu'il avait loué son pré. Et donc j'ai dit à Le Douarin, qui était mon guitariste, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire, je vais me raser la barbe et puis on va partir avec les 2 juments et le corbillard, et on va mettre une bâche pour faire un bon chariot, et on va partir, et on est parti. Et ça a duré 2 mois. C'est vrai que les juments, au départ de Lyon, on a mis 6 heures pour faire 2 kilomètres, et quand on est rentré, elles faisaient des créneaux.
Je rappelle que vous êtes un féru d'équitation. Il y a une chose qui m'a fait sourire en parcourant votre autobiographie, donc écrite avec Sophie Delassin, c'est qu'entre 73 et 76, vous parveniez à imposer le prix des places de concert. C'est complètement fou, ça. Aux organisateurs.
Oui. Mais j'avais fait en...
Alors, je précise qu'elles étaient à 10 francs. Vous aviez imposé le prix de 10 francs.
C'est ça. Et c'était 5 fois moins que le prix habituellement pratiqué. J'avais fait 4 jours de tournée dans le sud-ouest vers le printemps 72. En première partie de Serge Lama, les places étaient à 50 francs. Et il y avait un tiers de salle. Et j'avais dit à Eddy Marouani, qui était son impresario, j'ai dit, c'est con. Vous auriez mis les places à 10 francs, vous faisiez autant d'argent, et moi, il y aurait eu 3 fois plus de monde qui m'aurait vu. Et quand j'ai eu les moyens, quand on a commencé à me proposer des trucs et que j'ai eu les moyens d'imposer, j'ai imposé le prix des places à 10 francs parce que j'avais un coût de production très bas. Il y avait 2 musiciens, un ingénieur du son, et un agent à payer. C'était tout.
Donc
je préférais avoir des salles pleines, et il y a un producteur de spectacle qui s'appelait Roland Hubert qui a trouvé que mon calcul était juste et qui a organisé la tournée de 73 à fin 75.
Sur votre troisième album Saltimbanque, Maxime Le Forestier, vous sortez un titre que je qualifierais d'engagé, une fois encore. C'est La vie d'un homme. Hommage à Pierre Goldman.
Alors, c'est
Pierre
pas Goldman... un hommage. Méfions-nous du mot hommage, il est employé à tout bout de champ. Non. C'était un Pierre Goldman, pour rappeler aux auditeurs, le demi-frère de Jean-Jacques, mais qui ne lui ressemble pas du tout, ni physiquement, ni moralement, avait été accusé d'avoir assassiné deux pharmaciennes. Boulevard Richard Lenoir. Ça sentait l'erreur judiciaire à plein nez.
Il avait vécu en Amérique latine.
Il avait vécu en Amérique latine.
Avec des idées révolutionnaires. Voilà, sorti un livre qui s'intitule, que j'avais d'ailleurs lu, qui s'intitule « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France
». Voilà.
Auquel il relate son histoire. Et incarcéré.
Et vraiment beaucoup de gens... Des intellectuels, des journalistes avaient vraiment gueulé contre ça, et moi j'ai eu un coup de fil de son comité de soutien en disant: est-ce que vous voulez faire un gala de soutien pour Pierre Goldman? Et bon, c'était déjà la fin des galas de soutien, j'ai dit non, je veux pas ça, mais je peux faire une chanson si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait la chanson dont j'ai versé les droits à Pierre Goldman.
Vous le regrettez?
Je me demande parce que on sait toujours pas s'il a tué ou pas ces deux pharmaciennes. Et puis je l'ai rencontré après sa sortie de prison et je l'ai pas trouvé sympathique.
Ah, malheureusement ça s'est mal terminé pour lui puisqu'il a été assassiné.
Le jour de la naissance de son enfant. Oui.
Par trois policiers d'extrême droite.
Ouais. C'est ça, honneur de la police.
Ça 79. Ouais. Est-ce que cette étiquette d'artiste engagé qui vous collait à la peau, donc à l'époque, est-ce qu'elle n'a pas fini par être un peu encombrante pour vous?
Elle était encombrante quand elle imposait des choses. J'étais obligé de les chanter, ces chansons-là. Et même à la limite, si je voulais continuer dans cette voie, il fallait que je sorte un parachutiste par album. Ça, c'est insupportable. D'être obligé. Et puis aussi, je me suis aperçu que c'était pas simple tout ça, que quand on a une salle devant soi et qu'on connaît un certain nombre de trucs, on peut leur faire faire des choses qui sont pas bien. Il y avait discussion avec Brassens aussi, pourquoi t'as rien fait en mai 68? Si en mai 68 j'ai fait des calculs. Et puis, de toute façon, je ne me sens pas d'envoyer des gens dans un combat auquel je ne participe pas. Ça m'a un peu rendu méfiant. Et puis pesant, parce que c'est rien de plus chiant que des gens, que de dire des choses à des gens qui sont déjà d'accord. Comprenez? Ça sert à rien.
Merci Maxime Le Forestier. Je vous propose de nous retrouver demain pour le quatrième et avant-dernier volet de cette série d'Avoix Nues, où il sera question de traversée du désert.
Ah, très bien.
Et de renaissance.
Avec des belles oasis.
Bonne soirée à l'écoute de France Culture.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Sandlars avec Maxime Le Forestier. À Voix Nues, réalisation Rafik Zénine, prise de son Yvan Turc, coordination Claire Poinsignon. À Voix Nues s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.